Vous écoutez RTL. RTL Grand Soir.
L'anesthésiste avait bu le jour du drame à Orthez. Elle avait bu pour ne pas trembler. Elle le reconnaît, c'est ce qu'elle dit. Fin septembre, une jeune maman, rappelez-vous, est décédée après son accouchement. Maître Philippe Courtois, vous êtes l'avocat justement de la famille de la victime de Xintia Ok. Bonsoir maître.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir en direct sur RTL. L'anesthésiste, je le disais, reconnaît qu'elle était sous l'emprise de l'alcool le soir du drame, mais elle affirme qu'elle n'était pas ivre, qu'elle était à 70% de ses capacités. Est-ce que vous pouvez entendre cette ligne de défense ?
Non, je ne peux pas l'entendre, tout comme la famille, qui est atterrée par les déclarations que l'anesthésiste a pu avoir. Vous imaginez, on a une personne qui a bu plus que de raison, puisqu'elle buvait quotidiennement, elle se reconnaît alcoolique pathologique, donc c'est vraiment une chronicité dans son alcoolémie, et elle dit j'ai bu, elle avait même d'ailleurs à 18h le jour même de l'intervention de l'accouchement, elle dit j'étais à 70%, on est dans un domaine quand même, la médecine, où il faut être à 100% de ses moyens, on a entre les mains la vie d'une personne, et en l'occurrence la vie d'une jeune maman, et on peut d'ailleurs être heureux, si je mets ce mot-là entre guillemets, que l'enfant n'ait rien, soit sain et sauf aujourd'hui, et c'est un drame humain. Mais on trouve l'origine dans l'état de cette anesthésiste.
Visiblement, il y avait déjà eu des signaux concernant les problèmes d'alcoolisme de cette anesthésiste. Envisagez-vous de revoir les responsabilités de chacun dans cette affaire ? Elle n'est peut-être pas la seule responsable de ce drame.
Alors ce qui est certain, c'est l'acteur premier. C'est elle qui est responsable de cette erreur médicale manifeste et dramatique. Mais il est évident que dans l'instruction, il faudra tout de même rechercher peut-être plus haut des responsabilités, notamment la direction de la clinique qui a recruté ce praticien, mais également, et pourquoi pas, les autres praticiens qui l'ont côtoyé au quotidien et qui ont forcément vu son état. Parce qu'on ne peut pas, en étant alcoolique comme elle pouvait l'être, ne pas avoir d'éléments aussi bien sur son visage que dans ses tremblements, comme elle le dit, puisqu'elle buvait pour calmer ses tremblements. Forcément, d'autres personnes sont responsables et c'est l'instruction qui devra le déterminer.
En plus, c'est une attitude qu'on peut facilement décrire et voir de la part de l'entourage, parce qu'une bouteille d'eau, quand on met 50% de vodka et 50% d'eau, c'est une technique d'adolescent presque, c'est quelque chose qui se voit obligatoirement, maître.
Oui, tout à fait. Mais il y a également l'odeur. Lorsqu'on a un praticien qui va arriver tous les jours en ayant bu ce mélange d'adolescents, vous l'avez parfaitement dit, forcément, on le sent. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs le jour de l'accouchement, lorsqu'elle est entrée dans la salle d'opération, tout le monde a senti cette odeur-là. Et j'ose imaginer forcément que dans les jours qui précédaient, bien avant, l'ensemble du personnel a senti, a vu ses égarements, a vu ses problèmes liés à l'alcool. Donc elle est manifestement la première responsable, c'est une évidence, mais d'autres responsabilités seront à rechercher.
Maître Courtois, le parquet visiblement s'intéresse désormais à 14 décès au sein de l'établissement, hôpital et maternité, l'ensemble. Décès peut-être suspects depuis que l'anesthésiste travaillait là. À votre connaissance, ce soir, d'autres enquêtes vont-elles être ouvertes ?
À part cette saisie de 14 dossiers concernant des décès de personnes ayant fréquenté cet établissement, il n'y a pas d'autres recherches qui sont effectuées, mais il est évident que ces 14 dossiers sont suspects, c'est les termes du procureur, et ça méritera, notamment par le biais d'expertise, de voir si de près ou de loin il y a eu des manquements et quelles ont été l'origine des complications ayant conduit au décès. C'est vrai, c'est en lien, en tout cas temporel, avec la venue de ce praticien dans l'établissement. Dire aujourd'hui qu'il y a un lien direct et certain, c'est impossible, mais l'enquête le dira, c'est certain.
Mais ça fait froid dans le dos quand on écoute vos propos à propos, justement, concernant ces 14 dossiers de malades dans une maternité qui était menacée, faut-il le rappeler encore, maître ?
Oui, elle était menacée, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop dévier le débat, si je peux me permettre, dans le sens où on peut accabler, c'est vrai, le service, on peut dire que les chirurgiens, les médecins ont un certain stress au travail, mais de là à dire qu'il y a d'autres responsabilités, et de là à dédouaner pratiquement l'anesthésiste en disant bah « oui, mais le service avait un problème », c'est certain, c'est de notoriété publique. Le service de maternité de cette clinique était sur le déclin et elle est fermée, donc ça n'a fait que précipiter sa fermeture, fort heureusement maintenant, mais malheureusement parce qu'il a fallu un décès pour que ce soit efficace.
Justement, j'écoutais votre consoeur tout à l'heure, Maître Barnaba, dans le journal de 18h de Marc-Olivier Fauger, qui disait qu'elle parlait même de carnage, de pratique du Moyen-Âge au moment de l'anesthésie.
Oui, c'est l'un des propos notamment tenus par le procureur ce matin devant la chambre de l'instruction lors de la demande de remise en liberté. Et c'est même les propos tenus par les différents praticiens, notamment infirmiers, qui travaillaient dans cette clinique. C'est-à-dire que c'était véritablement un peu tout et n'importe quoi dans ce service et dans cette clinique. Et on peut que s'étonner également, on parlait de chaîne de responsabilité, d'aller plus haut, voir pourquoi les autorités, la Haute Autorité de Santé, l'agence sanitaire également n'est pas venue s'intéresser plus avant, et avant d'ailleurs, vis-à-vis de cette clinique, parce que c'est quand même des faits importants et des faits gravissimes. Encore une fois, on est dans le domaine médical, l'erreur est humaine et certaine, mais il y a quand même différents facteurs qui auraient pu conduire à un contrôle beaucoup plus drastique et important au sein de cette clinique.
Mais j'imagine justement, Maître Courtois, que vos confrères, ceux qui vont défendre l'anesthésiste incriminé, vont invoquer le matériel défectueux, justement, et puis les déserts médicaux, élargir effectivement ce problème, cette responsabilité à un ensemble un petit peu plus vaste.
Oui, mais les déserts médicaux, c'est pas nouveau. Ça fait depuis plusieurs mois, plusieurs années qu'on en parle. On parle également de différents problèmes dans la médecine, mais le manque de moyens se rattache pas forcément au manque de moyens humains. Qu'on vienne nous dire, oui, on a une pénurie de médecins, donc on est obligé d'aller chercher des médecins outre nos frontières, jusqu'à preuve du contraire, la médecine s'exerce pareil, de la même manière, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit chez nos voisins européens. Donc oui, il y a un manque de moyens évident, mais là, en l'état, il y avait les moyens nécessaires pour l'accouchement, sinon j'imagine fortement que l'obstétricien qui a pratiqué l'accouchement aurait tout de suite dit non, il faut la transférer autre part. Donc il y a, c'est vrai, différents facteurs qui sont liés à ce problème-là. Maintenant, dévier vers d'autres sujets, c'est le rôle de la défense. Forcément, ils le reconnaissent, leur client est principalement responsable. Mais il ne faut pas non plus oublier que l'élément central, la victime centrale, c'est une mère de famille, c'est une maman qui n'a pas pu profiter de son enfant qui venait de naître. Et elle est morte le jour où elle donnait la vie, il n'y a rien de pire. Et donc, il faut rester sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et bien entendu, je ne suis pas aveugle non plus, je suis quasiment convaincu surtout qu'il va y avoir d'autres révélations dans les jours et les semaines qui vont venir dans le cadre de l'instruction. On va voir que d'autres problèmes sont liés à la pratique de cette clinique et on va aller beaucoup plus loin que le dossier de Cynthia.
Pour terminer, juste un mot, Maître Philippe Courtois, on a envie de vous demander comment va, si tant est que l'on puisse aller dans ces circonstances, hein, on s'entend bien, comment va justement la famille de Cynthia ?
Ils ont enterré leurs proches samedi dernier, donc on peut imaginer leur état. Ce qui devait être un bonheur pour les parents de cette jeune fille, c'était de devenir grands-parents, et malheureusement, ils l'ont été, mais ils ont perdu leur propre chair dans ce drame. Ils sont surtout atterrés et choqués par les propos de cette anesthésiste et également par une partie du corps médical qui semble vouloir dédouaner ce qui s'est passé en disant que c'est vrai, les médecins sont stressés ou autres, mais encore une fois, ça n'enlèvera pas leur chagrin. Ce qu'ils veulent, c'est la vérité, savoir ce qui s'est passé, comment on aurait pu l'éviter, ça on le sait déjà par ce médecin qui n'aurait pas dû pratiquer, et savoir si d'autres personnes auraient pu éviter le décès de leurs proches.
On rappelle que l'anesthésiste donc est en prison.
Elle, en détention. Oui.
Voilà, exactement, en détention. On saura jeudi si sa demande de remise en liberté est acceptée ou non. Maître Philippe Courtois, on vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir dans RTL Grand Soir. Merci beaucoup.